Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard.
Est-ce que vous tenez à ce qu'on vous appelle maître ?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Jamais, jamais.
Ah bon ?
Non, appelez-moi Gaston Bachelard, Bachelard, c'est tout. Oh non, non, non. Si pas, vous... pas monsieur le professeur.
Moi, je vous
pas de blague, hein, non, non, c'est fini. Je... Hein ?
Ah bon ?
Je suis un homme absolument dans la liberté. Non, tout le monde m'appelle Bachelard, quoi. Hein ? Voilà. Non, non, pas, pas, suite, pas trop de maître.
À cause de mon intervention, bien
non,
sûr.
Non, non, non.
Quand nous sommes arrivés tout à l'heure, vous écoutiez la radio. Est-ce que l'actualité vous préoccupe beaucoup ?
Elle me semble indispensable. Ma fille m'a acheté un transistor et je prends tous les flashs depuis 7h30, n'est-ce pas, jusqu'à 9h du soir. Et d'heure en heure, n'est-ce pas ?
Pourquoi ?
Parce qu'en 3 minutes, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, n'est-ce pas ? Et que le monde m'apporte des nouvelles de l'univers, c'est parfait. C'est je ne peux pas m'en passer.
C'est pas forcément des événements importants.
Ah ben oui, c'est des événements au moment où ils se produisent. Et sans beaucoup de commentaires. Quand j'écoute quelquefois des commentaires, ils me déçoivent souvent. Alors les faits me suffisent, et puis moi je fais mes pauvres commentaires à ma façon.
Est-ce qu'il y a une définition du philosophe, justement, possible ?
Ça, j'en ai donné une quand j'enseignais, mais je l'ai perdue. Hein ? Pourquoi voulez-vous qu'une ? Hein ? C'est un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Je vous dis ça parce que,
oui,
parmi les idées courantes qui règnent chez les gens qui ne font pas de philosophie,
oui,
à propos des philosophes, on pense en général que la philosophie, ça sert à rien.
Oui, mais à mon avis, ça sert à penser. Alors, si vous voulez, n'est-ce pas, vous priver de pensée originale, vous pouvez vous passer de philosophie.
Est-ce qu'un philosophe, c'est un être supérieur aux autres hommes ?
Oh, ce n'est tout de même pas Dieu le Père, vous savez, non.
Les gens...
Il n'y a pas d'homme supérieur les uns aux autres. Je ne crois pas, je n'ai pas la mystique de la hiérarchie, n'est-ce pas ? Par conséquent, les gens sont ce qu'ils peuvent être, n'est-ce pas ? C'est pas toujours très commode d'être égal à soi-même. Alors quoi ? Je ne comprends pas qu'on puisse se comparer aux autres.
On a l'impression qu'un philosophe sait mieux vivre que les autres.
Mieux vivre, pourquoi ?
Qu'il est à l'abri des...
Des quoi ?
Je ne sais pas. Des passions.
Mais non. Alors, il n'est pas toujours l'abri des passions, n'est-ce pas ? Ou alors, il a peut-être l'infortune de ne pas en avoir. Oui.
C'est une coquetterie, mais qui ne répond pas à la question.
Non. La vie et le travail de la pensée sont des choses qui ne sont pas absolument cohérentes. Quand je suis en train de lire un livre des philosophes, ma foi, je suis à ma lecture. Et alors après, mais ça ne m'empêche pas de vivre comme n'importe qui, comme un bon citoyen, comme un bon père de famille, comme un bon travailleur dans ses fonctions. Vous voyez ? Vous voulez absolument me coller l'étiquette des philosophes comme une espèce de rêveur écarté de toutes les difficultés de la vie, mais...
Moi, je ne veux pas, mais c'est une idée populaire des philosophes.
Mais non, faut la rectifier.
Justement.
La rectifier tout de suite.
Non.
Ainsi, par exemple, je sais tout faire, je n'ai besoin de personne. Je sais faire la cuisine, je me suis suffi à moi-même. Quand j'étais plus jeune, j'allais moi-même chez le boucher, chez le marchand de volaille, etc. Je choisissais. Voyez-vous ?
Non,
j'ai jamais été embarrassé pour la vie matérielle. Quand je faisais mes pauvres études dans une chambre de bonne, j'avais mon litre de vin devant moi, j'avais le meilleur fromage de la crèmerie, et tout. Et d'un coup d'œil, je voyais bien si j'allais avoir l'entame du jambon, si ça au milieu, quoi. Mais vous-même, vous occupez des questions matérielles,
hein? Moins que vous, je le crains.
Oh, et puis ça vous interroge là-dessus, tiens.
Au fond, c'est un art de vivre, tout ça, monsieur Bachelin.
Chers auditeurs, bonsoir. Oui, ce soir, nous accueillons Gaston Bachelin. Un être extraordinaire, au cœur de l'ordinaire. Autodidacte, philosophe, chercheur, il accomplit seul une véritable recherche de laboratoire sur les sources de l'humain et les conditions de développement de la pensée et de l'action. Vous le connaissez ? Alors je voudrais vous le faire reconnaître encore davantage et le faire apprécier. Vous ne le connaissez pas ? Alors je vais essayer de vous le faire découvrir. Un passeur, oui. Un penseur, un scientifique, un humaniste, un poète, on reviendra beaucoup sur ce point, qui deviendra alors à jamais un compagnon de votre chemin, faisant. J'ai découvert Gaston Bachelin en reprenant mes études par correspondance. Depuis, il ne m'a jamais quitté. Et je ne cesse de m'en nourrir, de le découvrir. Quand Edgar Morin dit que c'est la surprise, l'étonnement qui oblige à évoluer, je pense à Gaston Bachelin. Quand je dis, et je le dis souvent, car cela m'habite, que l'enfance est source de notre vie, Bachelin en donne un magnifique témoignage. Né en 1884 d'une famille d'artisans cordonniers, il travaille au poste et télégraphe, nom de l'époque. À 30 ans, il se marie à une institutrice. À 36 ans, il est veuf avec une petite fille, Suzanne. Il est alors professeur de physique et de chimie dans un collège. À 43 ans, il est docteur ès lettres de la Sorbonne. De 56 ans à 70 ans, il est professeur à la Sorbonne. Il meurt à Paris à 78 ans. Il est inhumé là où il est né, à Bar-sur-Aube. Son œuvre, à la fois scientifique, humaniste et poétique, constitue pour moi une source inépuisable pour le XXIe siècle. Dans la seconde partie de l'émission, j'accueillerai Gilles Jouannard, auteur d'une cinquantaine de livres et de plusieurs centaines d'articles. Il a aussi produit des émissions pour France Culture, dont des émissions sur Gaston Bachelin. Et à 21 ans, il monte à Paris pour écouter, comme auditeur libre, Gaston Bachelin à la Sorbonne. Depuis, Gilles en a fait son compagnon de route. Je voudrais brièvement vous donner quelques citations que j'ai extraites des livres de Gaston Bachelin, faire deux brefs commentaires et vous raconter une anecdote savoureuse avant de revenir à Gaston Bachelin et de l'écouter nous parler de la poésie de la main. Quelques citations. Le courage intellectuel, c'est de garder actif et vivant cet instant de la connaissance vivante. Savoir, c'est pouvoir. Avouer qu'on s'est trompé. Qu'on s'était trompé, c'est rendre le plus éclatant hommage à la perspicacité de son esprit. Comprendre la vie, c'est plus que la vivre, c'est la propulser. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, il est toujours ce qu'on aurait dû penser. L'homme est une création du désir et non pas une création du besoin. Le monde est ma provocation. On n'est jamais pressé quand on donne aux mots leur être poétique. L'homme doit savoir composer avec le temps, c'est-à-dire avec lui-même. La société sera faite pour l'école et non pas l'école pour la société. Une culture bloquée sur un temps scolaire est la négation de la culture scientifique. Il n'y a pas de science que par une éducation permanente. Qui enseigne doit enseigner. Qu'est-ce qu'un beau poème, sinon une folie retouchée ? La fée est une beauté en miniature. La féerie est la beauté du monde. Dans la proportion où il est un surhomme, un homme est un homme. La vérité est fille de la discussion et non pas de la sympathie. Nous avons tous besoin de donner une valeur à notre être pour estimer la valeur des autres. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout se construit. Le noir est refuge de la couleur. Et enfin, celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Voilà, quelques très brefs passages qui, j'espère, vous mettent déjà en appétit. Alors, Bachelin, c'est avant tout un homme. Et Jean Lacroix, qui est un grand philosophe, dit de lui ceci. Il aimait faire ses courses et sa cuisine, choisir son vin et sa nourriture, deviser devant un pot de bière, raconter des histoires, vivre enfin en homme libre, toujours présent à l'instant. C'est l'être le plus humain que je n'ai jamais connu. Et voici ce que dit une de ses étudiantes. Professeur Bachelin était toujours en mouvement. Il avait l'œil vif, intensif, le regard concentré. C'était un homme dynamique, il parlait d'abondance, sa pensée semblait couler de source, puisqu'il transmettait une conviction profonde. Il était moderne, adolescent, pas du tout le mandarin habituel de la Sorbonne. À la fin des cours, on se précipitait pour l'assaillir de questions. Il a été un chercheur de la poésie profonde de l'être. Il en a recherché les filons, les sources profondes. Comme il l'a écrit, l'enfance est le puits de l'être. Toute son œuvre témoigne, finit cette étudiante, pour cette passion à deux visages, la science et la poésie. Il a étudié la poésie comme une science et la science en poète. L'anecdote que je vous ai promis est la suivante. Dans un de ces restaurants qui, à l'époque, entouraient la Sorbonne, il y en a de moins en moins, un jour, Bachelard attend un de ses élèves, Jean Lescure, qui arrive en retard. Jean Lescure arrive et dit à Bachelard, « Je vous prie de m'excuser, Bachelard, mais je suis en retard, j'ai des problèmes énormes avec deux femmes, je ne sais pas comment m'en sortir. » Et Bachelard, avec cet accent que vous avez découvert tout à l'heure, lui répond, « Mais monsieur Lescure, ce n'est pas d'un psychanalyste dont vous avez besoin, c'est d'un stratège. » Continuons d'écouter Bachelard, qui cette fois va nous parler de la poésie de la main.
Dans les cinq causeries précédentes sur la poésie des éléments matériels, j'ai examiné successivement les thèmes poétiques qui peuvent être assemblés autour des images de l'eau, de l'air et du feu. Et la semaine dernière, j'ai commencé l'étude de l'élément terrestre. Tandis que les trois premiers éléments, eau, air et feu, sont directement dynamiques et résument les forces simples qui, pour l'imagination, animent tout l'univers, l'élément terrestre peut sembler l'élément passif par excellence, l'élément inerte. Cependant, dès que l'imagination matérielle est éveillée, dès que l'imagination aime à dépasser le jeu des formes et des couleurs pour rêver à l'intimité profonde des choses, à l'étonnante richesse des substances du monde matériel, un dynamisme nouveau anime le corps et l'esprit. Et voici que soudain, la main elle-même, la main qui pétrit et qui taille, la main qui polie et qui écrase, s'enchante de sa force et de son travail. Nous entrons dans le règne des images engagées. En examinant dans leurs détails et dans leur diversité ces images engagées, j'ai cru pouvoir parler des rêveries de la volonté. Dans le travail de la matière, il y a, me semble-t-il, une étroite union des deux facultés qu'on aime volontiers, qu'on donne volontiers comme contraires, l'imagination et la volonté. L'imagination matérielle fait vraiment une synthèse de l'image et de la force. Elle n'est plus une simple faculté d'évasion. Elle nous apporte des images et des progrès et des projets qui séduisent vraiment la volonté. Le grand romantique Jean-Paul Richter tenait le toucher pour une camisole de force qui nous enfermait en nous-mêmes. L'imagination des profondeurs de la substance matérielle nous libère de ce toucher fermé, de ce toucher passif. Elle déclenche par ses images la poésie du toucher. Soudain, la main a ses poèmes. Les images dynamiques de la main, les poèmes de la main, s'exaltent dans la résistance de la matière. Par elle, une imagination de transformation encourage la volonté. Ainsi, l'être qui accepte les rêveries de la volonté est profondément dynamisé. Un type de poésie naît précisément du travail des différents types de résistance de l'élément terrestre. La matière travaillée nous renvoie notre énergie. Elle est en quelque sorte le miroir énergétique par lequel nous prenons conscience de notre force, de notre adresse, de notre patience, de notre puissance de transformation. En transformant la matière, nous nous transformons nous-mêmes. Novalis a écrit cette étonnante formule qu'on ne peut comprendre que dans le règne de l'imagination matérielle. Je cite Novalis. Dans chaque contact s'engendre une substance. Il semble que le travail de la main, que dans le travail de la main, toute matière devienne humaine. Ainsi, avec les images engagées dans la transformation de la matière, nous sommes à la racine du pouvoir humain de création, à la racine du pouvoir étymologiquement poétique. Les poésies des forces de la main sont d'une prodigieuse variété. Elles correspondent à un complexe de la résistance et du défi, toujours difficile à analyser. À peine un si grand domaine peut-il être encadré dans la dialectique du dur et du mou. Dans le cadre de cette dialectique, à partir de laquelle le psychologue pourrait trouver des tests caractériels nombreux et précis, on peut fonder une doctrine des beaux-arts, car soit directement, soit par voie de métaphore, les images dynamiques de la matière ont des actions directrices. Il est sûr que sans un intérêt quasi natif pour le modelage, l'art si ancien du potier est inimaginable. De même, la sculpture, la taille des pierres, la gravure, la ferronnerie, tous ces arts, soi-disant mineurs, sont en besoin de la saine excitation des matières dures. La main vigoureuse aime imposer ses images sur une matière rebelle. Dans ces joies de la main, ces joies directement créatrices, qu'il faudrait étudier en détail dans une poétique généralisée, elles sont si grandes, si vraies, si naturelles, qu'elles sont encore sensibles dans leur transposition littéraire. Dès lors, si vraiment les livres, les simples livres, peuvent nous transmettre des joies manuelles sans mettre en communication vraiment avec la matière réelle, et nous aurons alors des béatitudes et des triomphes. Et alors, on trouvera la preuve que l'imagination matérielle...
Voilà, nous allons quitter Gaston Vachelard, nous parler de la poésie de la main, mais nous nous retrouvons après les informations et nous allons accueillir Gilles Jouannard. À tout à l'heure, chers auditeurs. Poursuivons cette émission, chers auditeurs, sur Gaston Vachelard, l'autodidacte, le philosophe et l'homme si humain. Pour continuer, nous allons accueillir Gilles Jouannard, qui se trouve ce soir en Ardèche et que nous allons avoir par téléphone, qui est déjà en contact avec nous par téléphone. Gilles, dont je vous disais dans la première partie qu'il a écrit une cinquantaine de livres et plusieurs centaines d'articles. Gilles, qui est né en Avignon, d'un père qui était ouvrier boulanger et d'une mère qui était bergère de 8 ans à 14 ans, bonne à tout faire de 15 ans à 23 ans, puis femme de ménage. Je dis ça pour mettre en valeur les origines extraordinaires de Gilles et ce qui le rapproche, avant même qu'il le sache, de Gaston Vachelard. Bonsoir Gilles. Nous ne l'avons pas encore, mais nous allons l'avoir dans un instant. La communication n'est jamais simple à établir. Et nous allons lui poser deux questions auxquelles il va essayer de répondre. Je rappelle que Gilles a fait des émissions sur France Inter, en particulier sur Gaston Vachelard, et qu'à 21 ans, il était monté à Paris pour l'entendre. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Alors Gilles, je vais vous poser deux questions, si vous voulez bien. La première, c'est parmi tous vos souvenirs sur Gaston Vachelard, est-ce qu'il y en a un que l'on peut connaître? Et puis ma deuxième question sera, quelle est votre approche de Gaston Vachelard, surtout en thème de poésie? Et je vous laisse d'autre part choisir deux musiques qui accompagneront vos réponses pendant cette deuxième partie. On vous écoute, Gilles.
Eh bien, mon souvenir le plus ancien de Bachelard, c'est, disons, l'année et les circonstances où j'ai découvert, non pas sa personne, mais son œuvre. C'était en 1957. J'étais en terminale, en classe de philo, où on dissertait sur des sujets abstraits, sur Platon, Socrate, Aristote, Descartes, Kant, bien sûr. Alors que moi, déjà, je commençais à être subjugué par des gens comme Héraclite, comme Parménide, parce que j'étais un lecteur de René Char à l'époque. Et tout d'un coup, je suis tombé, je ne sais plus très bien comment, sur la poétique de l'espace de Gaston Bachelard, qui m'a alors absolument fasciné, si bien que dans la foulée, je me rappelle que j'ai lu Le droit de rêver, où il parle beaucoup de peinture, de Monet en particulier, et puis ensuite j'ai lu un peu tout, hein, y compris un livre peut-être un peu moins connu, qui est La flamme d'une chandelle, qui n'est pas une des poétiques ou une des rêveries, mais c'est une véritable rêverie poétique sur la flamme de la chandelle, telle qu'il vivait dans son appartement rue de la Montagne de Sainte-Geneviève le soir quand il lisait. Alors ça a été un coup de foudre, un véritable coup de foudre qui allait d'ailleurs de pair avec la découverte que je faisais de l'histoire de l'art d'Élie Faure ou bien des promenades entomologiques de Jean-Henri Fabre. Donc j'étais très orienté vers une sorte de prose qui n'était pas de la poésie, mais qui finalement débouchait sur la poésie, une naturaliste finalement. Et en 1959, après avoir passé une année comme pion à l'Île-sur-Sorgue à lire tout ce que j'ai pu trouver de Bachelard, en tout cas, disons, les poétiques et les rêveries, je suis monté à Paris pour vivre à Paris, je voulais vivre à Paris, et je l'ai aperçu un jour, alors voilà, là commence véritablement ma rencontre physique avec lui, enfin en tout cas ma rencontre visuelle, parce que je ne l'ai pas abordé bien sûr, place Maubert à Paris, il habitait juste à côté de la place Maubert, dans la rue de la Montagne de Geneviève, qui donne sur la place Maubert, et il avait cette allure absolument incroyable que je lui connaissais déjà par les photos qui circulaient de lui, où on le voyait habillé d'une manière, avec une redingote, je crois me rappeler qu'il avait un chapeau melon, ce qui à l'époque déjà était complètement inusité. Il avait un cabas, mais il avait pratiquement toujours un cabas, parce qu'il était course lui-même au marché de la place Maubert. Alors donc, sa dégaine m'a subjugué. Il était en plus très familier avec les gens, donc il ressemblait vraiment à la fois au maître de sagesse qu'il voulait être, et à un personnage fantasque, extravagant, original. Alors, quoique je n'ai pas été à l'époque inscrit, d'ailleurs je n'y ai jamais été inscrit, comme étudiant à la Sorbonne, je suis allé l'écouter en auditeur libre, hein, ce qui était possible. Je suis entré dans l'amphithéâtre, et une fois, deux fois, je crois que je l'ai écouté. Enfin, en tout cas, je me rappelle la première fois, parce que j'avais été à la fois subjugué et stupéfait par sa manière de conduire son cours. Il était arrivé avec, une serviette, il a sorti des papiers, il les a retournés dans tous les sens, il n'arrivait pas à trouver le début, les pages, il avait mélangé les pages, ou il nous a dit qu'il les avait mélangées, parce que par la suite, je l'ai soupçonné d'avoir raconté des bobards, parce qu'il avait une autre idée que celle de faire son cours ordinaire. Il était d'ailleurs très, disons, peu sorbonicole. Il appelait ses collègues profs à la Sorbonne les sorbonicoles. Il avait créé ce mot-là sur le modèle de cavernicole qui désigne les chauves-souris ou des rongeurs. Alors donc, il a sorti, il dit, oh, j'arrive pas avec son accent bourguignon, non, pas bourguignon, je suis un peu nourra, mais c'est le même, hein, c'est le même accent, parce qu'en fait, on dit toujours bourguignon, parce qu'il a été prof à Dijon, mais il était d'origine champenoise. Enfin, bon, il a l'accent que les gens qui l'ont entendu connaissent, qui est vraiment savoureux, et avec cet accent-là, que je vais pas essayer de reproduire, Il nous a lu des poèmes que je crois avoir été médiocres. Je n'ai pas gardé un grand souvenir, mais ça n'avait pas d'importance parce que c'était le prétexte. Il achetait où il achetait dans les librairies qui étaient tout près de la Sorbonne, en venant de chez lui, de la place Maubert à la Sorbonne, c'est pas très loin. Et il y avait d'autres librairies en route où souvent il entrait pour acheter des plaquettes de poésie dont il était très friand, ou alors des poètes aussi, de nombreux poètes lui envoyaient leurs propres plaquettes. Et il partait d'un vers quelconque, et quelconque au sens propre du terme, c'est-à-dire souvent tout à fait inintéressant de mon point de vue, enfin autant que je m'en souvienne, mais en revanche, à partir de là, il brodait d'une manière absolument géniale, et avec une liberté d'expression, de pensée, qui était extraordinaire, et je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens, je n'ai rien inventé, que c'était un vrai poète, quoi. Il parlait comme s'il était un poète, alors que quand on le lui a demandé, parce que beaucoup de gens lui ont dit, mais enfin, vous êtes un vrai poète, etc., etc., il le déniait, non, un peu comme quand on avait dit à Brassens, Ferré et Brel, qu'ils étaient des poètes, ils ont dit non, on est des compositeurs et des chanteurs de chansons, mais on n'est pas des poètes, c'est pas la même chose. Ben lui, Bachelard, ne se prenait pas pour un poète. Il s'intéressait passionnément à la poésie, et c'était son mode d'accès au réel. Alors, sa parole était tellement inventive, délivrée de la pesanteur universitaire d'alors, avec son accent, il donnait aux choses une profondeur, une bonhomie en même temps, qui était extraordinaire. Alors, je voudrais, si c'est possible, puisque vous me l'avez proposé, qu'on entende maintenant le TikTok Choc ou les maillotins de Couperin, dont j'estime l'esprit très proche de celui de Bachelard. Et ensuite, je vous lirai un texte de lui que j'ai choisi.
Eh bien, écoutons, Gilles, le TikTok que vous avez demandé.
D'accord.
On va continuer par le texte que vous voulez nous lire et oui. Je vous donne l'antenne pendant 9 minutes et nous terminerons cette émission avec votre second morceau de musique.
D'accord. Allez-y. Alors donc, je vais vous lire un texte qui a été une révélation pour moi à l'époque parce que je me suis dit, pourquoi s'il refuse le titre de poète ? Parce que ce que je vais lire là, c'est un véritable poème en prose. Or, c'est un texte, quelques lignes, que j'ai pris dans la poétique de l'espace. Alors voilà le texte. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ces vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières. Et quand octobre viendrait, avec ses brumes sur la rivière, mon plaisir est encore d'accompagner le ruisseau, de marcher le long des berges, dans le bon sens, dans le sens de l'eau qui coule, de l'eau qui mène la vie ailleurs, au village voisin. Mon ailleurs ne va pas plus loin. Voilà, donc j'ai lu ce texte et ce que j'aimerais peut-être, alors puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est peut-être vous faire entendre également des phrases toutes simples que j'ai extraites également de son œuvre. Il y en a 7, 8 ou 10, je ne sais plus, et qui montrent à quel point il avait les mêmes qualités de création poétique, mais d'une poésie entre guillemets philosophique que le René Char des aphorismes. Par exemple, il écrit « Dans l'homme, tout est chemin perdu. » Il écrit aussi « Une nuit des temps est en nous ». Il écrit « Chacun devrait dresser le cadastre de sa campagne perdue ». Il écrit « L'enfance est certainement plus grande que la réalité ». Il écrit aussi « La poésie aide à bien respirer ». Il écrit « Le monde est beau avant d'être vrai ». Il dit aussi « Le monde veut être vu ». Il le dit ça à propos de Monet. Et il dit « L'arbre agrandit ce qui l'entoure ». Il dit « L'œil véritable de la terre, c'est l'eau ». Et il dit aussi « J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin ». Et enfin, je vais finir par cette dernière citation. « Toutes les nuits, le rêveur recommence le monde ». Voilà. Alors, je ne sais pas si on arrive...
Non, Gilles, vous avez encore quelques minutes.
J'ai encore quelques minutes. Alors, pardon. Justement, en le lisant, surtout en lisant d'ailleurs Le droit de rêver, je me suis rendu compte effectivement que non seulement il était subjugué par la peinture, mais également par la poésie, mais également par la peinture. Il avait d'ailleurs écrit un texte très beau sur le graveur, qui s'appelait Flocon. Enfin, c'est un pseudonyme. Il était allemand. Il était réfugié pendant la guerre en France, mais il avait pris le nom de Flocon. Et c'était un graveur sur lequel Bachelard avait écrit un texte magnifique. Et il avait écrit également un texte superbe sur Monet. Et donc j'ai découvert comme ça. Alors je vais lire un autre texte de lui. Excusez-moi, je suis précipité parce que je me rends compte qu'il faut que je fasse vite. Et il y a un texte que je voudrais vous faire entendre. Voilà, parce que c'est un véritable et un grand poème. Quand l'insomnie, mal des philosophes, s'accroît de l'énervement dû au bruit de la ville, quand, place Maubert, tard dans la nuit, les automobiles ronflent, que le roulement des camions me fait maudire ma destinée de citadin, je trouve un apaisement à vivre les métaphores de l'océan. On sait bien que la ville est une mer bruyante. On a dit bien des fois que Paris fait entendre, au centre de la nuit, le murmure incessant des flots et des marées. De ces poncifs, je fais alors une image sincère, une image qui est mienne, aussi mienne que si je l'inventais moi-même, suivant ma douce manie de croire être toujours le sujet de ce que je pense. Si le roulement des voitures devient plus douloureux, je m'ingénie à y retrouver la voix du tonnerre, d'un tonnerre qui me parle, qui me gronde, et j'ai pitié de moi-même. Te voilà donc, pauvre philosophe, à nouveau dans la tempête, dans les tempêtes de la vie. Je fais de la rêverie abstraite concrète. Mon divan est une barque perdue dans les flots. Ce sifflement subi, c'est le vent dans les voiles. L'air en furie klaxonne de toutes parts et je me parle pour me réconforter. Voix. Ton esquif reste solide. Tu es en sûreté dans ton bateau de pierre. Dors, malgré la tempête. Dors dans la tempête. Dors dans ton courage. Heureux d'être un homme assailli par les flots. Et je m'endors, bercé par les bruits de Paris.
C'est très beau.
Je crois qu'après ça, il n'y a plus qu'à écouter Franz Schubert, qui pour moi est le compositeur le plus bachelardien, de même que je dirais que le poète le plus bachelardien que je connaisse, c'est Jean Follin, qui a dit « Tout fait événement en particulier ». Et Franz Schubert, dont j'ai demandé que vous ayez la gentillesse de faire entendre l'un des leaders les plus poignants, qui est Dicret, ce qui veut dire la corneille. La corneille, le corbeau, quoi. Il décrit sa sortie de la ville, de Vienne, je pense, accompagné par un corbeau. Et c'est extraordinaire, cette musique.
Nous allons l'écouter, Gilles, mais avant de l'écouter ensemble pour clôturer cette émission, une seule question encore. Que constitue aujourd'hui au cœur de votre quotidien, Bachelard, Gilles?
Au cœur de mon quotidien, il constitue une présence permanente. J'ai connu en plus Jean Lescure, qui était très proche de Bachelard, qui l'a vécu au quotidien, qui l'avait eu très souvent, et qui m'a raconté des anecdotes extraordinairement drôle le concernant, parce qu'il avait un humour phénoménal et donc il m'a marqué d'une façon qui en plus je sais pas comment dire, mais contradictoire vis-à-vis de l'idée qu'on s'est fait de ce qu'on a appelé les sciences humaines dans les années 60, c'est-à-dire tout d'un coup tout s'est asséché, tout est devenu abstrait, etc. Alors que lui réussit à penser comme le faisaient les penseurs grecs pré-socratiques, ou comme ont continué de le faire, et l'ont fait d'ailleurs bien avant les pré-socratiques, les poètes chinois et les penseurs chinois, qui étaient d'ailleurs poètes à la fois, poètes penseurs, et pas philosophes, mais penseurs, et musiciens, et chanteurs, comme Wang Wei, comme Li Po, comme Tu Fu, c'était des gens qui... Il n'y avait pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre la pensée et la contemplation, la méditation, le regard porté sur le monde et sur la réalité. Et ça, pour moi, c'est une leçon dont je ne me suis jamais départi et qui a été ma démarche d'écrivain, entre guillemets, hein, écrivain au sens où j'écris tout simplement. Et donc il est le moteur permanent que je n'y pense pas à chaque instant, bien entendu, hein, mais ma manière de regarder est très proche de lui et d'une phrase que j'ai prise chez Rilke, qui est « Ich lerne sehen », j'apprends à voir. Hein. Finalement, je ne sais pas si Bachelard avait lu ce texte de Follin, qui a dû être traduit en français dans les années 1926-27-28, mais « j'apprends à voir », c'est presque le sésame ouvre-toi de la pensée bachelardienne.
Alors Gilles, nous allons écouter la musique ensemble. Je vous dis, chers auditeurs, qu'il y a un magnifique numéro spécial de Faire Part, revue littéraire que vous trouvez sur Google. Gilles Jouannard, contemplateur itinérant. Merci beaucoup Gilles, et peut-être dans une autre émission. La note de synthèse comprendra, qui accompagnera cette émission sur le site, plein de documents sur Bachelard et sur cette émission, www.art, culture au pluriel, éducation, singulier relié.com/. Demain soir, Pays de Grâce historique. Chers auditeurs, finissons avec cette musique recommandée par Gilles. Merci beaucoup, Gilles.
Merci à vous.
Es wird nicht weit mehr gehen.